Bonjour, vous écoutez Nouvelles Perspectives, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offreur, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Perspective, votre émission sur l'évolution professionnelle, tous les lundis à 11h et les dimanches à 12h30. Nous prenons le temps, ensemble, de parler de ce qui bouge dans nos vies professionnelles, de ce qui nous bouscule et parfois de ce qui nous fait peur. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre des mots sur un sujet qui reste souvent dans l'ombre, un sujet tabou parce qu'il touche à notre rapport à l'argent, à la sécurité, au confort matériel parfois, à tout ce que nous avons mis tant d'années à construire. Se reconvertir quand on a peur de perdre son niveau de vie. Rien que de le dire, ça résonne, non ? On peut rêver d'un autre métier, aspirer à plus de sens, sentir l'élan de quitter une voie qui ne nous correspond plus, et en même temps, avoir la gorge serrée à l'idée de gagner moins. Et si je ne pouvais plus payer mon loyer ? Et si je devais renoncer aux vacances ? Et si mes enfants en pâtissaient ? Et si après tous mes efforts, je descendais d'un cran sur l'échelle sociale ? Ces questions, je les entends très souvent dans mes accompagnements, parfois dites clairement, parfois suggérées. Je les ai connues moi-même à plusieurs moments de mes reconversions, parce que, soyons honnêtes, changer de voie, ce n'est pas seulement une affaire de passion, de vocation ou de courage. C'est aussi une affaire de chiffres, de factures ou de budget. Entre le rêve et le compte bancaire, il y a souvent un gouffre. Alors faut-il pour autant renoncer ? Ou bien apprendre à apprivoiser cette peur, à vivre autrement, différemment ? Aujourd'hui, je vous propose de traverser ensemble ce paysage intérieur souvent rempli de paradoxes. Nous allons parler de cette peur financière, de ce qu'elle cache, de ce qu'elle raconte, et surtout de comment il est possible d'avancer malgré elle. Pas en idéalisant un retour à la vie simple, pas non plus en se condamnant à une vie de privation, mais en inventant un autre rapport à ce qu'on possède, à ce qu'on gagne, à ce qu'on dépense, et surtout à ce qui nous nourrit vraiment. Je suis Nathalie Offreur, j'ai moi-même fait plusieurs détours, plusieurs arrêts, plusieurs redémarrages. Et chaque fois, j'ai dû composer avec cette question très concrète. Comment vivre pendant la transition ? Comment accepter que peut-être mon niveau de vie ne soit plus exactement le même, mais que ma qualité de vie, elle, puisse s'enrichir ? Alors j'ai fait une émission complète sur les dispositifs de formation à votre disposition, donc si vous voulez creuser un petit peu ce qui peut constituer du remplacement de salaire pendant votre formation à minima, je vous invite à aller écouter cette émission. Elle est en replay, vous tapez Radio Libre Périgord, Nouvelle Perspective et vous aurez tous les replays de mon émission. Alors je vous invite à vous installer, à laisser de côté un instant les injonctions sociales et la peur du regard des autres. Prenons ensemble le temps de déplier tranquillement ce sujet. Bienvenue dans Nouvelles Perspectives. Nous allons à présent parler de la phase intérieure. Quand on commence à envisager une reconversion, souvent l'idée fait battre le cœur plus vite. On imagine un métier plus juste, un quotidien qui nous ressemble, des journées où on respire enfin, mais presque aussitôt, une autre émotion vient se glisser à l'intérieur. Cette émotion, c'est la peur. Pas n'importe quelle peur. Pas seulement la peur de l'échec ou du regard des autres, la peur de manquer. Et cette peur-là, elle est tenace. Elle serre la poitrine, elle coupe l'élan. Elle chuchote dans notre oreille, « Tu vas tout perdre !» Tu ne pourras plus maintenir ton niveau de vie, tu le regretteras. Alors on fait semblant de ne pas l'entendre, mais elle revient la nuit quand tout est calme. On se remet à calculer mentalement, on revoit nos factures, on pense aux enfants, aux crédits, aux habitudes qu'on a mis des années à installer. On pense aussi à ce que les autres diraient si soudain nous descendions d'un cran, économiquement et socialement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une peur abstraite, c'est une peur viscérale, ancrée. Elle touche à quelque chose de plus profond encore, elle touche à notre valeur. Parce que dans nos sociétés, gagner moins, c'est souvent vécu comme valoir moins. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et ça, c'est difficile à regarder en face. Je me souviens d'un homme que j'ai accompagné, cadre supérieur depuis 15 ans. Il rêvait d'enseigner dans une petite école alternative. Son regard s'illuminait quand il parlait de pédagogie, de transmission, mais dès qu'on abordait la question du salaire, il se refermait. Comment expliquer à ma famille qu'après tous ces efforts, après tout ce que j'ai bâti, je vais gagner 3 fois moins? C'était pas seulement une équation financière, c'était un effondrement de son identité telle qu'il la concevait. Et peut-être que vous aussi vous sentez ce tiraillement. L'appel vers autre chose et le vertige de lâcher sur ce qui rassure. Dans ces moments-là, le mental tourne en boucle. On fait des scénarios catastrophes. Je vais finir ruiné, je ne pourrai plus suivre le rythme des autres. Je vais décevoir machin, bidule, chouette, ma mère, mon frère, que sais-je. Mais derrière ces scénarios, il y a souvent une vérité plus intime. La peur de perdre une place, une image, une reconnaissance. Alors la tentation, c'est de se résigner, de rester dans une situation qui ne nous correspond plus, simplement parce qu'elle paye bien. Mais à quel prix? Au prix de l'usure, du vide intérieur, parfois de la santé. C'est pour cela que ce moment de trouble, ce brouillard où la peur financière envahit tout, il est essentiel. Il nous oblige à nous demander, qu'est-ce que je ne veux pas perdre vraiment? Et de quoi est-ce que j'ai peur? Peut-être n'est-ce pas si vital que ça? Vous pouvez maintenant vous poser cette question-là, maintenant. Si je devais vivre avec un peu moins, qu'est-ce que je craindrais concrètement de perdre? Et qu'est-ce qui, en réalité, m'est absolument indispensable pour me sentir vivante, vivant ou alignée? Ce questionnement, il est inconfortable, je sais. Mais c'est le début d'un espace nouveau, parce qu'il fait apparaître la différence entre le superflu et l'essentiel. Entre ce que la société attend de nous et ce dont nous avons vraiment besoin. Et puis, malgré tout ce poids intérieur, malgré cette peur de manquer qui ronge et qui paralyse, quelque chose se met à vibrer doucement. Une envie timide, un élan fragile, un et si qui s'invite dans un coin de votre esprit. Et si je pouvais quand même changer? Et si je pouvais vivre autrement, quitte à gagner moins, mais à retrouver du souffle, de l'air. Ce n'est pas encore un projet clair, ce n'est pas un business plan, ni un plan de carrière, c'est une graine. Et cette graine, parfois, il suffit d'un détail pour qu'elle apparaisse. Une conversation avec un ami, un souvenir d'enfance, une passion longtemps mise de côté. Je pense à cette femme que j'ai accompagnée, ingénieure dans une grande entreprise, qui gagnait très bien sa vie, mais qui ne se sentait plus du tout à sa place. Elle avait peur d'abandonner son statut, ses avantages, tout ce qu'elle avait mis tant d'énergie à obtenir. Et puis un jour, elle a dit, presque en chuchotant, en fait, ce que j'ai toujours voulu, ce dont j'ai toujours rêvé, c'est écrire. Son propre aveu l'a bouleversée. Écrire, ça ne paye pas forcément les factures. Mais écrire pour elle, c'était se sentir exister. Alors vous voyez, le désir qui émerge n'est pas toujours raisonnable. Il peut sembler absurde, risqué, irréaliste. Et pourtant, c'est lui qui a donné la direction. Faut savoir aujourd'hui qu'il y a des nouveaux métiers de l'écriture. Mais ceci serait un autre sujet d'émission. Entre ce désir et la réalité, il y a l'ambivalence. On veut avancer, on a peur de se tromper, on rêve d'un futur plus libre, on s'accroche à la sécurité du présent. Parfois, on se raconte des histoires pour gagner du temps. Je vais attendre d'avoir un peu plus d'économie. Je vais voir si dans un an, j'ai toujours cette idée. Je vais rester encore un peu au cas où ça s'améliore. En réalité, on retarde le moment de faire un pas, parce que ce pas nous semble vertigineux. Alors comment faire? Comment donner une place à ce désir sans se mettre en danger brutalement? Eh bien, souvent, la clé, c'est de commencer petit. Tester, explorer, faire un pas de côté sans tout lâcher. Écrire un soir par semaine, s'inscrire à une formation en parallèle de son travail, proposer un service en indépendant tout en gardant un emploi pour la sécurité. Parce que l'important, ce n'est pas d'avoir un plan parfait, l'important, c'est de sentir que quelque chose avance, que ce désir, il n'est plus muselé, qu'il peut respirer. Et même si vous avez peur, même si vous doutez, vous pouvez poser ces premières pierres. Alors je vous pose la question directement aujourd'hui. Quel est ce désir chez vous qui résiste malgré la peur? Quelle est cette étincelle qui revient encore et encore, même quand vous la repoussez? Osez y penser. Même si vous ne savez pas encore comment la rendre possible, c'est ce mouvement-là, même fragile, qui va peu à peu tracer la nouvelle route. Il y a un moment où on ne peut plus se contenter de rêver. Un moment où il faut poser un acte. Pas forcément un acte spectaculaire, mais un acte concret. C'est le passage à l'action. C'est là que la peur financière se fait la plus présente. Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus seulement d'imaginer, mais aussi de choisir. Je me souviens d'Antoine, un client que j'ai accompagné. Il travaillait dans une banque depuis plus de 20 ans. Son salaire était confortable, sa maison était belle, ses enfants bien installés dans leur scolarité. Mais à l'intérieur, Antoine étouffait. Il rêvait de devenir maraîcher. Catastrophe! Le contraste était immense avec ce qu'il faisait. Il avait peur de tout perdre. Alors il n'a pas commencé par tout quitter, non. Il a commencé par louer un petit lopin de terre à côté de son travail, quelques heures par semaine, juste pour voir. Et peu à peu, il a senti que ce choix, même minuscule au départ, était un engagement. Pas un engagement contre son ancien monde, mais pour lui-même. S'engager, c'est pas forcément abandonner du jour au lendemain son confort, ses revenus ou ses repères. S'engager, c'est décider que ce désir qui nous habite mérite une place réelle dans notre vie. Et bien sûr, c'est aussi prendre en compte la réalité, faire ses comptes, réfléchir à son budget, anticiper une baisse de revenus éventuelle. Mais là encore, il y a deux pièges. Le premier piège, c'est de vouloir un plan qui soit parfait, sans faille. Attendre le moment idéal, l'équilibre parfait, il n'arrivera jamais. Le second piège, c'est de foncer tête baissée, sans filet, et de se retrouver en difficulté. Entre ces deux extrêmes, il y a un chemin de courage qui doit être lucide. Un chemin qui demande de poser des questions simples. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin pour vivre? Qu'est-ce que je peux réduire ou ajuster sans me sentir en insécurité? Quelles sont les ressources autour de moi? Économie, aide, soutien, que je peux activer le temps de la transition. Ces questions ne sont pas théoriques. Elles dessinent la marge de manœuvre réelle. Et dans cette marge, vous pouvez commencer à bouger. Et puis il y a le regard des autres. Dire à ses proches, je vais peut-être gagner moins, mais je choisis autre chose. Cela demande un courage énorme, parce que dans notre société, la réussite est souvent mesurée en revenus, en statut, en niveau de vie. Et pourtant, que vaut un haut salaire si on vient chaque matin travailler avec la boule au ventre? Je pense à Sophie, ancienne avocate, qui gagnait très bien sa vie, mais qui s'effondrait peu à peu. Elle a quitté le barreau pour devenir sophrologue. Son revenu a diminué, oui, mais elle m'a dit un jour, j'ai perdu deux chiffres, mais j'ai gagné une vie. S'engager, c'est accepter cette vérité-là. Il y a une perte parfois, mais il y a surtout une transformation. Et surtout, le manque qu'on craint est compensé par une qualité de vie nouvelle. Moins de dépenses, de compensation, des dépenses de compensation, je veux dire, moins de stress, plus de temps, plus de respiration. Alors je vous pose la question à vous qui m'écoutez. Quel serait pour vous ce premier pas d'engagement? Pas de grand saut, pas le tout ou rien. mais un geste concret qui dit j'avance. Et puis, à force d'avancer par petits pas, on découvre qu'on a changé de paysage. La peur est encore là parfois, mais elle n'a plus le premier rôle. On s'habitue à vivre autrement. C'est ça l'atterrissage. Non pas un retour à la case départ, mais un nouvel équilibre. Un jour, vous vous surprenez à sourire en regardant vos comptes, pas parce qu'ils explosent, mais parce qu'ils suffisent. Parce que malgré vos craintes, vous arrivez à vivre. Et parfois même à mieux vivre. Moins de superflu, plus d'essentiel, moins de dépenses pour compenser le stress, plus de temps avec un être qui compte pour vous, avec votre famille, vos amis. Moins de pression pour tenir son rang, plus de liberté pour inventer vos nouvelles journées. Je pense à Claire, une femme que j'ai accompagnée, ancienne directrice marketing. Elle avait peur de perdre son standing. 3 ans après sa reconversion, elle gagne moins, c'est vrai. Mais elle habite une maison plus petite, elle jardine, elle a retrouvé une santé surtout qu'elle croyait perdue. Elle m'a dit un jour, finalement j'ai changé de vie, mais j'ai retrouvé ma qualité de vie, et c'est bien plus précieux. Atterrir, c'est accepter de redéfinir la richesse, non pas en termes de chiffres, mais en termes de sensations, en relations, en cohérence intérieure, en intégrité. Et c'est aussi apprendre à se réajuster. Parce qu'il y aura des moments de doute, de repli, où on se demandera est-ce que j'ai fait le bon choix? Dans ces moments-là, souvenez-vous, ce n'est pas le revenu qui mesure la valeur d'une vie, c'est la façon dont vous vous sentez aligné, présente, présent, vivant. Alors oui, se reconvertir peut signifier perdre un certain niveau de vie, mais c'est aussi l'occasion d'en inventer un autre, plus proche de vous. Et si vous êtes aujourd'hui au bord de ce choix, si vous hésitez, si la peur vous retient encore, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il existe des accompagnements, des cadres, des bilans de compétences, des professionnels pour poser les choses. Poser les choses sans se précipiter et sans se juger. C'est ce que je propose moi-même et d'autres proposent la même chose. Des espaces lucides, humains, activables pour repenser votre avenir professionnel avec clarté. Alors avant de nous quitter, je veux vous laisser avec cette question simple. Qu'est-ce que vous choisissez de préserver vraiment? Votre confort matériel ou votre vitalité intérieure? Et si la vraie richesse, c'était de retrouver un chemin où l'un ne détruit pas l'autre? Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. C'était Nathalie Offrère pour Nouvelles Perspectives, tous les lundis à 11h, les dimanches à 12h30. Prenez soin de vous et souvenez-vous, la reconversion n'est pas seulement un risque à calculer, c'est une vie à réinventer. À très bientôt dans Nouvelles Perspectives.